Brigitte Lapouge des gens, au micro de Jean Todelli.
Bonjour, vous venez d'écrire un nouveau livre aux éditions Terre Vivante, Mariage réussi, associations écologiques au jardin d'ornement. C'est une mine d'or votre livre, plein de renseignements concernant les associations possibles au niveau des plantes d'ornement.
Oui, tout à fait. En fait, c'est un projet qui a duré un certain temps. Ça a été un peu pour remettre dans le contexte notre façon d'envisager le jardin d'ornement, parce que on prend de plus en plus les plantes pour des modèles de déco. En fait, on ne les traite plus comme des sujets vivants, alors qu'il ne faut pas oublier qu'une plante est un être vivant et qu'elle ne vit pas de la même façon selon son environnement. Donc c'était reprendre un peu les plantes, les remettre dans un environnement favorable déjà, et travailler plus par milieu.
D'accord. Oui, je pense qu'en effet, vous mettez le doigt sur quelque chose qui m'a aussi moi-même étonné, c'est qu'aujourd'hui, la perfection au jardin, pour certains, c'est que les plantes ressemblent le plus possible à du plastique, c'est-à-dire qu'elles soient brillantes, lustrées, sans aucun défaut, que l'herbe n'ait aucune adventice indésirable, et donc on traite ça comme des plantes en plastique, c'est-à-dire qu'on met n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, et puis on se plaint que ça périclite.
Tout à fait. C'est d'ailleurs, je pense que l'information a beaucoup de mal à passer auprès du grand public. Les gens ont peur de vraiment se lancer dans des expériences de jardin et vont acheter une plante pour ce qu'ils en voient au premier abord, c'est-à-dire, comme vous disiez, un élément de décoration avec de jolies fleurs, alors qu'une plante, c'est un être vivant qui a aussi des racines, qui a une façon de vivre, qui vit toute l'année. Donc on oublie le cycle sur 12 mois, sur 4 saisons. Oui. On pense floraison estivale par exemple, et le reste du temps on se désintéresse totalement de ce qui se passe dans cet être vivant. Et même on arrive à des choses absolument aberrantes pour nous qui pratiquons le jardinage écologique depuis de nombreuses années, c'est que on arrive à des collections de plantes un peu comme les collections je dirais vestimentaires, printemps, été, automne, et quand la plante a fait la saison, on la jette. Oui. Ce qui n'est pas du tout du jardinage ni écologique ni durable. Tel qu'on peut l'envisager.
Oui. Alors que pour vous, l'intérêt de ça, c'est de créer des associations qui fassent que des plantes fleurissent de manière échelonnée, se protègent les unes les autres, par exemple, pour des plantes gélives, être protégées en hiver par des plantes que vous appelez cabanes, ce qui est assez amusant comme nom, et dont vous allez créer un biotope qui va permettre d'avoir un jardin qui soit toujours agréable à regarder, qui ait même des fragrances de temps à autre qui nous chatouillent les narines, et qui soit viable, c'est-à-dire que les plantes se respectent les unes les autres, voire se protègent.
Voilà, si on prend l'exemple des plantes pour lesquelles on fait des cabanes en hiver, en fait, c'est tout à fait créer un biotope, c'est-à-dire mettre des plantes un peu fragiles. Alors, bon, nous, dans le jardin, on a pris l'exemple de la sauge, par exemple, parce que les sauges d'origine un petit peu des pays chauds ont un peu de mal à passer l'hiver ici. Et par contre, on s'est aperçu que si on les plantait avec des graminées, la graminée pourrait former une sorte de cabane en hiver au-dessus de la souche de la sauge, qui n'aurait aucun problème à passer la mauvaise saison, on repartirait au printemps. Et ça, on fait coup double en fait, puisqu'on a un décor qui est absolument permanent, puisque les graminées sont belles absolument toute l'année, au printemps avec des épillets, des feuillages très fins, des couleurs très claires, ensuite des maturités qui viennent en cours de l'été. À ce moment-là, les sauges prennent un relais avec des floraisons qui durent très longtemps, donc de juin jusqu'en septembre, octobre, on a les floraisons des sauges. Et ensuite, en hiver, les graminées sont magnifiques. Enfin, dès qu'il y a un petit peu de givre, c'est des splendeurs. Et puis même, rien qu'un petit coup de vent, enfin, ce sont des plantes qui sont très vivantes et qui sont vraiment parfaites pour des décors permanents et qui sont des plantes compagnes, en fait, totalement naturelles dans le sens où, dans la nature, les prairies sont composées de majorité de graminées. Oui. Et les autres plantes viennent en plus.
Oui, c'est ça. Il y a aussi cette intégration de plusieurs étages de végétation. Sous une haie, on ne peut pas mettre n'importe quelle plante parce que la concurrence des racines de la haie sera préjudiciable à certaines plantes, alors que pour d'autres, au contraire, ce biotope sera totalement favorable à leur développement. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre.
Oui, en sous-bois ou près des haies, on voit très bien que la nature ne pratique pas la politique du sol nu. Il y a toujours des plantes qui viennent s'installer. Et là aussi, si on observe un petit peu, on verra les bons compagnonnages. C'est-à-dire qu'au pied d'une haie, on n'aura pas un sol très riche. Il y a une grosse concurrence des racines des plantes de la haie, voire des arbres qui vont pomper l'eau, qui vont pomper la nourriture. mais en même temps, la haie a absolument besoin d'avoir un sol couvert, parce que c'est ce qui va lui permettre de garder un sol meuble, de garder un sol actif, avec toutes les bactéries qui font la vie du sol. Et pour cela, elle a besoin de petites plantes qui viennent s'installer dans cette petite niche écologique. Donc on peut avoir du lierre terrestre, on peut avoir du lierre, on peut avoir des géraniums vivaces, on peut mettre des pervenches, on peut mettre vraiment tout un tas de petites plantes qui vont venir là et qui, mine de rien, vont aider la haie à pousser mieux.
Oui, c'est ça qui est formidable, c'est que même ces petites plantes ont un rôle positif vis-à-vis de plantes beaucoup plus importantes. Dans votre livre, vous abordez aussi le problème des insectes que l'on considère nuisibles, et vous avez là aussi des méthodes au travers de mariages réussis pour les perturber, ces braves bestioles.
Alors, le problème des insectes dans les jardins, on a longtemps considéré ça de façon très simpliste en disant... les insectes, en gros, si on schématise, les insectes ne sont pas bons, ce sont des nuisibles au jardin. Donc dès qu'il y a un insecte qui apparaît en quantité, il faut absolument le détruire.
Ouais.
Il faut voir ça de façon d'équilibre plutôt. En fait, s'il y a un insecte qui devient très envahissant, disons, ou qui peut poser problème, c'est déjà qu'il y a un souci au niveau du choix de la plante, ou un souci dans le fait que d'autres insectes ou des oiseaux ne seront pas là pour réguler cette population, mais en même temps, certains insectes sont aussi utiles pour nourrir d'autres insectes. Par exemple, on fait la guerre aux pucerons, alors qu'on a quand même besoin des coccinelles, et pour avoir des coccinelles,
il faut
qu'elles aient des pucerons pour se nourrir. Bon, ça c'était un peu une parenthèse sur les insectes.
Et en même temps, attendez, il y a un autre atout des insectes majeurs, c'est que pour des plantes, il faut qu'ils les pollinisent, et sans insectes, la pollinisation est beaucoup plus difficile, donc il n'y a pas que les abeilles qui se chargent de ça, donc l'insecte est aussi utile à la plante.
Ah, tout à fait, on a besoin de tous les insectes pollinisateurs pour faire ce travail-là, qui est un gros travail dans le jardin. Au verger, on en parle beaucoup. Au potager, on oublie que pour avoir des légumes, il faut avoir une bonne pollinisation. Et là aussi, les plantes vont aider dans ce sens. Hein.
Mmh. Donc vous pouvez associer aussi, par rapport à ce que vous êtes en train de me dire, des plantes ornementales dans un potager, par exemple. Et ça pourra avoir aussi des incidences positives vis-à-vis des légumes.
Les plantes à fleurs sont absolument indispensables dans les jardins potagers. Bon, nos grands-mères l'avaient bien compris, le jardin de curé, ça vient un peu de là aussi, cette tradition de mélange fleurs et légumes. C'est très important parce que on va utiliser là des plantes à odeur forte. On cultivait beaucoup traditionnellement les plantes aromatiques au potager. Je pense qu'il faut y revenir parce que des plantes comme la sauge scarée, des plantes comme les menthes vont émettre des molécules odorantes extrêmement fortes. Et en fait, cet ensemble de molécules va perturber les insectes qui vont... essayer de venir pondre ou d'envahir certains légumes. Bon, des choses très simples hein, pour lutter contre les doryphores, pour lutter contre les pyrites des choux. Il faut absolument tout un mélange odorant qui va faire que les insectes ne vont plus trouver leur marque et leur repère. En fait, ils cherchent un peu à tâtons quand ils arrivent sur un potager et qu'ils ont plein d'odeurs qui montent vers eux comme ça. Très fortes, ils vont être perturbés et en fait ils vont aller voir ailleurs si c'est plus simple. Hein.
Mmh. Et ces aromatiques, on peut aussi les introduire dans le jardin floral pour aider des rosiers par exemple ou des plantes un peu fragiles à mieux résister à des attaques.
Oui, le rosier vit un bon compagnonnage si on plante des lavandes au pied. Parce que là aussi, c'est tout en subtilité, mais la lavande va émettre des molécules qui vont aider les rosiers à se renforcer, à être moins sensibles à certaines maladies. L'ail d'ornement même, qu'on peut utiliser comme on utilise de l'ail normal au potager, planté au pied des rosiers, va émettre du soufre. Et en fait, ces composés soufrés, trivolatines, vont limiter certaines maladies cryptogamiques.
Donc votre livre est très intéressant pour ça parce que ça a dû être un travail important d'arriver à bien nous faire comprendre l'utilité des uns et des autres, des insectes et en même temps être capable de gérer tout ça au mieux pour avoir un jardin d'ornement qui soit tout le temps fleuri, qui ait des senteurs agréables par moment et qui, je dirais presque, est en synergie avec le biotope et demandent par cela même moins d'entretien et moins de déchets par des végétaux qui meurent parce qu'ils ne sont pas adaptés à leur biotope.
En fait, c'est le résultat d'un travail d'abord sur le jardin, d'un travail de 20 ans d'observation, de plantation, d'erreurs, qui nous a permis d'aller dans ce sens-là, et beaucoup d'observations pour voir dans la nature comment les plantes vivaient et comment elles, dans quel contexte elles vivaient bien, dans quel contexte elles vivaient mal. Mais en même temps, pour nous, ne sommes pas des scientifiques comme il y en a dans certaines universités, et on s'est appuyé aussi sur des travaux de recherche qui ont été publiés, sur des travaux que pratiquent d'autres jardiniers ou des collectionneurs ou des gens qui s'intéressent par exemple aux vergers. Il y a énormément de travail de fait sur la coexistence dans les vergers entre les arbres fruitiers et des plantes sauvages, ou alors certaines fleurs pour la pollinisation par exemple. Donc ouais, c'est un travail qui a vraiment été fait de façon très global chez nous et beaucoup en interaction avec ce qui se faisait dans d'autres endroits.
Et je pense que c'est tout ça qui fait que ce livre est aussi riche et aussi intéressant à lire. Et je pense que c'est vraiment un livre qui devrait prendre sa place au chevet de tous les gens qui ont envie d'avoir un jardin d'amendement de plus en plus éco-responsable.
Oui, c'est une façon aussi d'envisager le jardin autrement, d'y voir un milieu, un univers et pas comme ce qu'on disait au début, c'est-à-dire mettre côte à côte des plantes décoratives et en rester là, à ce domaine du visuel. C'est prendre conscience de tout ce qui se passe dans un jardin. Et là, c'est un milieu complètement riche. Et certaines personnes qui ont lu le livre m'ont dit que maintenant, elles ne voyaient pas du tout leur jardin de la même façon. Oui. Ça ouvre sur de nombreux univers.
Je vous rappelle le titre de cet ouvrage, « Mariage réussi ». Associations écologiques au jardin d'ornement de Brigitte Lapouche-Desjean aux éditions Terre Vivante.